Il est de retour à l'autre vie, mais a signé quatre candidats encore en compétition.
Sachant qu'il n'y a pas d'agence d'armement,
etc. Peu importe qui vous êtes.
Salut, vous êtes sur Radio Klaxon, la revue de paresse. Eh ben, on va commencer avec l'agenda
ouais.
De cette semaine, ou en tout cas ce qui se passe autour d'ici. C'est pas mal des trucs à Nantes et à Rennes. À Nantes, c'est ce soir, comme tous les mardis soirs, à partir de 19h, l'AG interprofessionnelle de lutte. Du coup, toujours issu de l'appel On bloque tout, les gens continuent à se retrouver à débattre pour savoir comment continuer le mouvement social. Jeudi 8 décembre, du coup, dans deux jours, il y a une conférence gesticulée qui s'appelle « Les hommes naissent libres et égaux à part la majorité d'entre eux » et c'est organisé par l'Université populaire de Nantes. C'est à la salle Bretagne, du coup c'est à l'arrêt Poitou, l'arrêt de tram Poitou à Nantes, et c'est à 20h. Et on passe à Rennes. À Rennes, vendredi, à partir de 9h30, il y a un procès contre un arrêté d'interdiction de manif. Et du coup, c'est l'histoire d'une personne qui, au mois de juin dernier, a été interdite de paraître à Rennes les jours de manifestation jusqu'à la fin d'état d'urgence. Et du coup, l'arrêté d'interdiction de présence à Rennes fait l'objet d'une demande d'annulation devant le tribunal administratif de Rennes. Et c'est le rendez-vous, c'est à 9h25, c'est 5 minutes avant l'audience, devant le tribunal de Rennes. Voilà, il y a d'autres choses qui se passent à Nantes.
Il y a un banquet à Nantes contre la répression qui aura lieu samedi à 19h à B17. Du coup, c'est dans le cadre d'une manifestation contre la loi travail. Il y a deux camarades de la CNT 44 qui ont été arrêtés au mois de mai alors qu'ils avaient quitté la manif depuis plusieurs heures déjà. Et ils sont poursuivis sur des dossiers presque vides, poursuite se situant dans le contexte très répressif que connaissent les mouvements sociaux actuellement, et en particulier le mouvement du printemps contre la loi travail. Du coup, c'est un banquet qu'organisé à B17 samedi, et j'ai pas vu si c'était à midi ou le soir.
C'est le soir.
Ah non, c'est à 19h. À 19h à B17.
Il y avait une autre info plus loin, du coup c'est lundi et c'est une soirée de solidarité avec l'écrivaine turque Asli Erdogan. C'est le 12 décembre à 19h à la manufacture de tabac à Nantes et en fait c'est l'histoire de cette écrivaine qui a été arrêtée par la police turque le 16 août dernier et elle est depuis incarcérée dans la prison d'Istanbul pour motif d'appartenance à une organisation terroriste et elle aura un procès le 29 décembre et risque la prison à perpétuité et fait partie de tous ces journalistes et personnes du monde un peu de la culture de la recherche en Turquie qui ont été arrêtées suite à le coup d'état. J'ai plus l'information de combien de personnes ça représentait, mais c'est assez fou. Et en tout cas, Asli Erdogan était journaliste à un journal, un quotidien assez important, qui vient d'être interdit, féministe, scientifique, romancière. Et dans ses écrits, elle ne cesse de promouvoir la liberté, la démocratie et de combattre toutes les oppressions. Ça, c'est un peu l'appel qui est lancé, c'est les paroles de un collectif de c'est l'appel qui est lancé par des écrivains pour que les écrits de Asli Erdogan soient diffusés partout. Et du coup, c'est nous écrivains, plasticiennes, comédiennes, artistes nantais, attachés à la totale liberté d'expression ici et d'ailleurs, attendons du gouvernement turc la libération immédiate d'Asli Erdogan et de toutes les personnes détenues en Turquie pour avoir exercé leur droit de s'exprimer librement. Voilà, ça c'était un peu l'appel qui est lancé et que, je répète, c'est lundi soir, le 12, à 19h à la manufacture de tabac à Nantes. Voilà, il y avait aussi l'envie, j'avais envie de vous lire la lettre que Asli écrit de prison, mais je me suis plantée, du coup je ne suis pas sûre que je l'ai.
Bah, sinon on met un peu de musique et on voit si tu l'as.
On peut mettre, oui, on la lira après. Radio Klaxon, vous êtes toujours avec nous pour la revue de Paris d'aujourd'hui, mardi 6 décembre. On est un peu à l'arrache, je crois, on est un peu fatigué, mais on va quand même y arriver.
Un peu, ouais.
Alors
du coup, là, on lit la lettre
de prison.
D'une meuf qui est à un procès le 26 décembre en Turquie et qui est une écrivaine féministe, tout ça, et journaliste aussi, c'est ça, turque.
Et oui. On va lire je vais lire la lettre, elle n'est pas très longue, mais je l'ai trouvée intéressante. Alors, lettre de prison. Chers amis, collègues, journalistes et membres de la presse, je vous écris cette lettre depuis la prison de Bakirkoy, au lendemain de l'opération policière, à l'encontre du journal Cumhuriyet, un des journaux les plus anciens et voix des sociaux-démocrates. Actuellement, plus de 10 auteurs de ce journal sont en garde à vue. 4 personnes, dont Chan Dundar, ex-rédacteur en chef, sont recherchées par la police. Même moi, je suis sous le choc. Ceci démontre clairement que la Turquie a décidé de ne respecter aucun de ses lois, ni les droits. En ce moment, plus de 130 journalistes sont en prison. C'est un record mondial. En 2 mois, 170 journaux, magazines, radios et télé ont été fermés. Notre gouvernement actuel veut monopoliser la vérité et la réalité. Et toute opération, en tant soit peu différente de celle du pouvoir, est réprimée avec violence. La violence policière, des jours et des nuits, de garde à vue, jusqu'à 30 jours. Moi, j'étais arrêtée seulement parce que j'étais une des conseillères de Özgür Günden, journal kurde. Malgré le fait que les conseillères n'ont aucune responsabilité sur le journal, selon l'article numéro 11 de la loi de la presse qui le notifie clairement, je n'ai pas été amenée encore devant un tribunal qui écoutera mon histoire. Dans ce procès kafkaïen, Necmi Alpay, scientifique linguiste de 70 ans, a été également arrêté avec moi et jugé pour terrorisme. Cette lettre est un appel d'urgence. La situation est très grave, terrifiante et extrêmement inquiétante. Je suis convaincue que l'existence d'un régime totalitaire en Turquie secouerait inévitablement, d'une façon ou d'une autre, aussi l'Europe entière. L'Europe est actuellement focalisée sur la crise des réfugiés.
Entre guillemets.
Et semble ne pas se rendre compte des dangers de la disparition de la démocratie en Turquie. Actuellement, nous, auteureuses, journalistes kurdes à Lévis, et bien sûr les femmes, payons le prix lourd de la crise de la démocratie. L'Europe doit prendre ses responsabilités en revenant vers les valeurs qu'elle avait définies après des siècles de sang versé et qui font que l'Europe est l'Europe, entre guillemets aussi. La démocratie, les droits humains, la liberté d'opinion et d'expression. Nous avons besoin de votre soutien et de solidarité. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour nous jusqu'à maintenant. Cordialement, Ali Erdogan. Et c'est un texte qui a été traduit par le site Kédistan, qui est un peu le site en France où il y a toutes les informations sur la Turquie, sur les Kurdes qui sont traduites.
C'est quoi? C'est kedistan.net, c'est ça?
Oui, okay. Complètement. Voilà, là vous pouvez trouver pas mal d'informations. Et là, ce que je trouvais intéressant dans la lettre, c'est que encore une fois, l'Europe elle est mise face à ses responsabilités. Et depuis juin 2015, Erdogan, le premier ministre en Turquie, il n'arrête pas il est en train de transformer la Turquie en une dictature. Et l'Europe bouge pas, même malgré tous les appels qui ont été faits par les Kurdes et par d'autres personnes en Turquie, quoi.
Et là, dans son texte, elle parle de crise des réfugiés, machin, entre parenthèses. Et moi, j'avais envie de partager. Il y a des gens qui écrivent un peu régulièrement une chronique de ce qui se passe aux frontières et le taf est assez fou. Du coup, j'ai essayé de résumer. C'est une chronique du mois de novembre qui se passe en Europe et au-delà. Et du coup, qui raconte les violences policières, les enfermements, les humiliations, les conditions de vie déplorables et qui sont le quotidien des gens qui n'ont pas les bons papiers. Et d'ailleurs, ça parle de la Turquie. Ça raconte que le samedi 19 novembre à Istanbul, il y a plus de 120 personnes qui ont réussi à s'échapper du centre de rétention de Kumkapi après avoir déclenché un incendie dans leur cellule. Et pendant que les pompiers ils s'efforçaient d'éteindre le feu, les emprisonnés ils franchissaient la porte de la cour et ils sont enfuis malgré les policiers qui ont tiré en l'air avec leurs armes. Il y a au moins 3 personnes qui ont été amenées à l'hôpital. Et en fait, Kumkapi, c'est l'un des plus anciens centres de rétention turcs. Et les conditions d'hébergement, elles sont déplorables. Et il y a une corruption qui prive les personnes migrantes de leurs droits à de la santé, de la nourriture, n'importe quoi. Et le nombre de migrants dans les prisons et les centres de déportation turcs, il augmente depuis l'accord UE-Turquie qui doit avoir, je pense, 1 an, peut-être un peu plus. Et ça, c'est un accord qui exige que la Turquie, elle mette tous les moyens en œuvre pour empêcher la migration irrégulière vers l'Europe. Du coup, c'est la Turquie qui devient le gardien engagé de la forteresse Europe et qui distingue les migrants autorisés à aller en Europe et à se déplacer et condamne les autres à se maintenir au niveau de la survie et à être étiquetés comme illégaux ou criminels, entre guillemets, et recueillis dans les centres de déportation avant d'être expulsés. Du coup, c'est la Turquie qui fait un peu le sale boulot de gardien là, de l'Europe. Il y a peu d'infos qui sont données sur ce qui se passe dans ces centres de détention. Et la situation, elle a empiré après la récente vague de répression et la solidarité est sévèrement restreinte. Le 4 décembre 2015, il y a eu une émeute et un incendie dans le centre de rétention à Istanbul, dans celui-là même. Le 28 décembre 2015, un soulèvement a éclaté dans le centre d'Erzurum. Et la police anti-émeute est intervenue, ça a été très violent. Il y a eu... 3 jours après, il y a les autorités qui avaient communiqué le décès d'une personne kurde origine de Syrie pour suicide. Donc ça, c'est ce qui se passe en Turquie. Il y a aussi de la révolte ailleurs. En Belgique, par exemple, il y a, en novembre, il y a eu pas mal de gens qui se sont mis en grève de la faim. Par exemple, 20 détenus à Merkplaats ou alors à Votem. Il y a aussi à Bruges des détenus qui ont refusé de monter dans leur cellule après leur promenade. Et en fait, tout ça, c'est pour protester contre les conditions d'enfermement, contre l'enfermement lui-même. Et en fait, là-bas, les personnes sont enfermées depuis 8, 9, voire 10, 11 mois. Parce que dès qu'une personne change de centre fermé en Belgique ou qu'elle refuse une expulsion, les compteurs sont remis à zéro et ça permet d'allonger sa durée légale de détention. Et il y a certaines personnes qui ont ainsi passé plus d'un an sans discontinuité dans divers centres fermés. Ça, c'est en Belgique. À Paris, il y a Stalingrad, il y a plus de 3000 personnes qui se sont fait expulser début novembre. Et aujourd'hui, à la place où il y avait les personnes migrantes, il y a des grilles ou des sapins de Noël qui s'appellent la forêt de je sais plus trop quoi, voilà, avec des espèces de sapins de Noël sous les rails du métro, ou un nouveau Paris Park Sport où c'est un ensemble de tables de ping-pong, murs d'escalade, machin et tout sous le métro, qui participe à la boboisation aussi de ce quartier-là. Après, il y a plein de choses. En Italie, il y a des gens qui ont... Il y a 9 voitures du service de la Poste italienne qui ont été incendiées dans la nuit du 7 au 8 novembre. Et la Poste, en fait, elle a une entreprise, une filiale Mistral Air, qui est une entreprise de transport aérien et qui participe aux déportations forcées des migrants. Donc 9 bagnoles qui se sont fait cramer. En Serbie aussi, la situation, elle est bien tendue. Il y a... Vendredi 10 novembre, des gens qui s'étaient installés dans des entrepôts à Belgrade qui se sont fait dégager par les keufs et du coup qui se sont retrouvés à la rue, des gens qui ont été arrêtés et qui sont mis dans des centres pour être envoyés en Macédoine. Il y a eu une grande marche, une manif qui s'est mise en route, à peu près 150 personnes qui ont marché vers la frontière croate. Donc ça c'était le lendemain, le 11 novembre. Et 3 jours plus tard, qu'ils étaient encore en train de marcher jusqu'à la frontière, ils se sont fait arrêter et mis dans le train direction Belgrade par les keufs. Et ils ont voulu dénoncer la violence du régime frontalier. Ils ont fait savoir qu'ils ne sont pas impuissants et qu'ils ne veulent pas se mettre en ligne pour la charité, qu'ils continueront leur combat pour la liberté. Et la situation en Serbie, elle s'aggrave à mesure que l'hiver approche. Il y a plus de 6000 migrants qui sont bloqués en Serbie et pas moins de 1000 juste à Belgrade. Voilà, ça c'est tout un ensemble d'infos qui sont trouvables sur Paris Lutte Info qui s'appelle Chronique d'une lutte permanente, où c'est un peu plus détaillé comment les gens, les émeutes aussi en Espagne et aussi en Bulgarie. Voilà.
Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait une petite pause musicale ?
Allez.
Rapide.
La gale.
Nos démons demeurent intacts, ne changeront pas le point d'impact. Si leurs fantômes sont ivres, aveugles et sans tact, de notre peine ils s'enivrent, nos équilibres ils détraquent. Et la plaie s'envenime, au moins de leur fait acte. Y'a de bien tristes choses qui nous attendent encore. Moins de bons que de moroses dans ce que constitue notre sort. On avance dans la névrose, on prend cancer à bras le corps. Si le futur n'est que sclérose, si on crève pas, on sera plus fort. Je ne viens de nulle part. pense au hasard qu'à ma propre condition. Et aucune muselière de ma voix n'aura raison. Mettre le doigt où ça fait mal, plat le fond de mes ambitions. Je ne viens de nulle part, mais aucune destination. Ne vis pas plus au hasard qu'à ma propre condition. Et aucune muselière de ma voix n'aura raison. Mettre le doigt où ça fait mal, plat le fond de mes ambitions. C'est une drôle d'époque, de l'absurde on atteint les cimes. C'est dire si le dieu s'en moque, le dernier soupir du dernier martyr s'en ira dans les airs pour faire fi d'un quelconque avenir. Nous jetterons au feu les glaives, le phosphore, l'argent, les nervures, la sève et les vêtements tachés de sang. Comptez vos morts, répertoriez vos corps, car à l'absolu, nous nous sommes dévolus. Nous nous tenons au tournant du suicide permanent. N'avons qu'un seul pas à faire pour sombrer plus qu'auparavant dans les cratères, désastres, critères néfastes. Au point du jour, la catastrophe n'est qu'une tache dans l'espace d'une main balayée, d'un point tout dégommé. Ça tient qu'à un seul fil et ça sert à rien de questionner. Ça fait trop longtemps qu'on cause, trop longtemps qu'on se ment. Et l'unique chose qui reste à faire se prépare à base de carburant. Je ne viens de nulle part, n'ai aucune destination. Ne me fie pas plus au hasard qu'à ma propre condition. Aucune muselière de ma voix n'aura raison. Mettre le doigt où ça fait mal, v'là le fond de mes ambitions. Je ne viens de nulle part, n'ai aucune destination. Ne me fie pas plus au hasard qu'à ma propre condition. Aucune muselière de ma voix n'aura raison. Mettre le doigt où ça fait mal, v'là le fond de mes ambitions. Je ne viens de nulle part, n'ai aucune destination. Ne me fie pas plus au hasard qu'à ma propre condition. Aucune muselière de ma voix n'aura raison. Mettre le doigt où ça fait mal, v'là le fond de mes ambitions. Je ne viens de nulle part, n'ai aucune destination. Ne me fie pas plus au hasard qu'à ma propre condition. Aucune muselière de ma voix n'aura raison. Mettre le doigt où ça fait mal, v'là le fond de mes ambitions.
Et vous êtes toujours sur Radio Klaxon 107.7 et c'est la revue de Paresse, toujours de bon, aujourd'hui qui est le mardi 6
ouais,
décembre.
Ouais, c'est la revue de Paresse et on cause pas mal aujourd'hui de... Bah, malheureusement dans l'agenda de répression policière, pas mal.
Oui, alors comme d'habitude, la semaine dernière, la proposition c'était de changer de nom de cette émission et de l'appeler plutôt Monde de Merde. Parce qu'à chaque fois, on a la bonne dose d'infos de merde quand même. Et là, c'est venu le moment où on va parler quand même de flics.
Ouais, oui. Ouais. Et samedi qui est passé, là, il y avait une manif, enfin une marche, pas une manif, à Rennes, en hommage à une personne qui s'appelle Babacar Gaye, qui s'était fait tuer par la BAC il y a un an. Et du coup, il y avait une marche d'organiser en hommage à lui. Et du coup, c'était plutôt à l'initiative de la famille, cette marche. Il y avait aussi des gens de la BAN, Brigade Anténégrophobie de Paris, qui étaient là. Il y avait Urgence Notre Police Assassine, avec Amal Bentoussi qui a un peu pris la parole. Et il y avait un peu de monde, je pense au moins 400 personnes qui étaient présentes. Et c'est plutôt cool. Comme,
ouais, ça a duré longtemps.
Ouais.
On a beaucoup marché.
Ouais, on a beaucoup crié.
Ouais.
Et moi, j'avais envie de vous lire un texte qui a été écrit par des gens de Rennes. Je vais pas tout lire, je vais lire des petits bouts. Du coup, ça a été écrit par des gens de Rennes et ça a été diffusé le matin de cette marche, mais dans un autre quartier. Et ça, en fait, ça rappelle contre la police, contre la justice, crève l'État. Tout le temps, partout, depuis et a priori pour longtemps, des personnes se font enfermer, psychiatriser, mutiler, humilier, tabasser, harceler, violer, tuer. Par la police, mais pas seulement. Dans ce monde basé sur la domination des unes sur les autres, chacun chacune est appelé à endosser son propre rôle de flic. C'est donc un rappel permanent à la norme ou à la loi qui s'effectue, qu'il soit fait d'injures, de menaces ou de coups. Ainsi, à tour de rôle, chacun chacune va pouvoir être victime ou agresseur, maton ou prisonnier. Il n'y a rien à attendre de la police, ni de la justice, car tant qu'elles existeront, ce sera la chasse aux sorcières, aux indésirables, de tous bords. Dans un contexte où les flics armés prennent la rue et demandent plus de marge de manœuvre, plus d'armes, pour mieux assurer, avec l'aide des médias, la propagande de la terreur, il serait bien temps d'inverser la tendance, avant que tout espace ne se referme pour de bon. On pensera aux nombreuses nuits d'émeutes à Beaumont-sur-Oise, suivant le meurtre d'Adama Traoré, ou bien d'une rébellion dans la prison d'Aulnay-Val-d'Oise, où 80 prisonniers refusent de réinsérer leurs cellules après avoir mis le feu à des draps, ainsi que quelques lycées bloqués en solidarité avec Adama. Ces actes parlent. Ils parlent d'une rage qui ne se cantonne pas aux limites de la légalité, de la simple vengeance à l'égard de flics qui auraient commis une bavure, d'une quelconque réforme de la loi, de la police ou de la justice. Ils parlent d'une rage concrète contre un quotidien toujours plus dur où chacun chacune est souvent acculé à la survie, mais où parfois cette rage explose et prend des élans incontrôlables. Une rage qui pourrait au moins permettre de temps en temps que la peur change de camp et que certaines flics, juges, machos et j'en passe, se sentent peut-être un peu moins légitimes, au moins pour un temps, de commettre leurs ignominies. Du coup, c'est un texte peut-être qui est... Il y a un site rennais qui s'appelle l'expansif.info, peut-être il est publié dessus. Et il est un peu plus long que ça et il reprend un peu pourquoi certaines et certains d'entre nous n'attendent rien de la justice.
Et on continue à parler de meurtres policiers. J'ai chopé un article sur Libé qui parle de la syndrome Malik Houssekine et qui sera l'occasion des 30 ans de la mort de cette personne. C'était la nuit du 5 au 6 décembre 1986. C'était au cœur du quartier latin à Paris et c'était au même temps qu'une mobilisation étudiante contre la loi Devaquet. Du coup, 1986. Et dans cet article, ce qui est intéressant, c'est que ça a été vraiment un moment de choc. Et il y a pas mal la police qui parle dans l'article, qui dit que c'était un choc, même pour eux, et que toute la stratégie policière, elle a changé à partir de ce moment-là. Du coup, je voulais lire quelques extraits. Du coup, il s'appelle « La syndrome Malik Houssekine existe-t-il encore ?» nuit du 5 au 6 décembre 1986, au cœur du quartier latin à Paris. Les étudiants sont mobilisés contre le projet de loi Devaquet de réforme des universités. La Sorbonne est occupée, tandis que quelques jeunes se réchauffent sur une barricade autour d'un feu. Pour les déloger, la préfecture de police de Paris envoie ses pelotons de voltigeurs motocyclistes. Un agent est chargé de conduire pendant que son binôme distribue des coups de bâton aux manifestants. Les bécanes tout-terrain, rouges et nerveuses, forcent à pleine vitesse dans les rue autour de l'université parisienne. Au même moment, Malik Houssekine, étudiant de 22 ans, sort d'un club de jazz. Les voltigeurs le prennent en chasse. Malik Houssekine se réfugie numéro 20 de la rue Monsieur le Prince, où un fonctionnaire du ministère des Finances le laisse entrer, le voyant apeuré. Les deux hommes n'ont pas le temps de refermer la porte que trois policiers se ruent dans le hall et le tabassent. Malik Houssekine, déjà atteint d'une insuffisance rénale, ne se relèvera pas. Le lendemain, le mois national, Alain Devaquet démissionne et sa réforme de l'éducation est abandonnée. Deux jours plus tard, une manifestation rassemblant plusieurs dizaines de millions de personnes est organisée. Sur son passage, un tag. Trop tard. La déflagration est aussi immense dans la police. Le prestige du maintien de l'ordre à la française, bâti sous le mythe d'avoir réussi à contenir mai 68 sans drame, s'effondre. Pendant des années, la formation et les stratégies du maintien de l'ordre vont s'adapter. La professionnalisation des unités dédiées, compagnies républicaines de sécurité et gendarmes mobiles s'accentue. La doctrine évolue. Il ne s'agit plus de casser la manifestation pour la disperser, mais de contenir les violences. La tenue défensive des forces de l'ordre est adoptée quelques années plus tard. L'idée est de repousser au plus tard le contact avec les manifestants. Voilà, après ça raconte un peu les affrontements entre étudiants et policiers en 1994. Ça part de Notre-Dame-des-Landes, de Sivens. Et ça parle aussi de la loi, les manifestations contre la loi travail, en disant que la police vient de vivre plusieurs mois compliqués entre injonctions politiques d'éviter toute casse et la peur d'un mort lors d'affrontements. Et ce qui est mis en lien avec ça aussi l'introduction des armes à létalité réduite. Parce qu'en évitant le contact physique, on évite les blessés du côté des forces de l'ordre et des manifestants. Ça reste le principe majeur, souligne le lieutenant-colonel Stéphane Brass à la télé du centre de Saint-Astier, dédié à la formation des gendarmes mobiles. Une crainte qui semblait presque dépassée par les ravages de la politique du chiffre en matière de sécurité. Du coup, après, il parle encore de la tâche d'aller au contact des manifestants pour interpeller est souvent confiée aux brigades anticriminalité, des effectifs non formés au maintien de l'ordre. On ne peut pas disperser une foule et vouloir faire des interpellations en même temps, confie un haut gradé de la gendarmerie. C'est pourtant depuis quelques années le chemin habituel de fin de manifestations. S'ajoute l'introduction des armes dites à létalité réduite, selon la terminologie officielle, malgré le risque de blessures irréversibles pour les manifestants. C'est le cas du flashball, puis de son successeur, le LBD-40, apparu dans les quartiers populaires, puis utilisé pour la gestion des foules au milieu des années 2000. Ça parle après des stratégies de désescalade et comment c'est pas utilisé qu'en France, mais il parle en tout cas de l'Allemagne. le truc c'est essayer, cette technique est basée sur la psychologie des foules qui a pour impératif d'éviter une solidarisation des manifestants pacifiques avec les plus radicaux. Exactement l'inverse de ce qui s'est produit pendant les manifestations contre la loi travail où le chant « Tout le monde déteste la police » dépassait largement le rang des plus déterminés. Le but est que l'action de la police demeure légitime pour le plus grand nombre de manifestants. Voilà. Et pour finir, l'article, elle finit sur un souvenir de 2006. Du coup, il dit « La critique du maintien de l'ordre en France est désormais impossible avec le risque terroriste. C'était déjà difficile en 2006. Pour les 20 ans de la mort de Malik Hosseini, une plaque en sa mémoire a été inaugurée à l'endroit où il est mort. Elle indique simplement que le jeune homme a été frappé à mort. » Lors de la cérémonie d'hommage, une personne ajoute alors sur un bout de papier par la police. Voilà.
Ok, ambiance.
Et peut-être on peut juste rajouter, comme on parle, comme ça après on arrête de parler de la police, on va essayer d'arrêter de parler de la police, mais on peut ajouter une petite information à ce qu'on vient de dire. C'est, j'ai dit. Dernier, il y a eu, je ne sais pas si c'est vraiment un procès, mais en tout cas, le gendarme qui a lancé la grenade qui a tué Rémi Fraisse, il a été dédouané. Du coup, il paraît qu'il
a été, c'est un avis par du défenseur des droits.
Oui, voilà. Donc, il ne nous étonne pas trop. Et du coup, ce qui est après mis en avant, c'était qu'il y avait manque de clarté des instructions données aux militaires déployés sous la zone. Voilà. On fait une petite pause musicale avant de passer à quelque chose d'autre.
Ça marche. And then you would guess what the man had to say. He said, "What's your fella, you gotta slow down." But just because you wanna keep the sky just around, you got so many chicks with a tin in one hand. The woman doing you, you better go, but I'm leaning on girls, girls, girls. The way I'm leaning on girls, girls, girls. When I see a doctor for a good advisor, but a honey said I'm gonna be as cold as ice. Doctor, what's wrong with me? Just tell me, please.
Boy, I'm suffering from nervous disease.
Oh, let tell me, please, will I ever be okay?
But he said too many girls, honey, that's what's wrong.
No more if you wanna live it long, but I'm leaning on girls, girls, girls. The way I'm leaning on girls, girls, girls. The way I'm leaning on girls, girls, girls. The way I'm leaning on girls, girls, girls. When I see a doctor for a good advisor, better holler than a boy, be as cold as I now.
So I keep on drinking, I have it wrong.
But this little time I've never wanna have it be half.
Oh, well, I'd rather have a good rock than we got to.
spend my time visiting Cuba, that I'm leaving on.
Radio Klaxon. Welcome on Klaxon Radio. We are Tuesday, we are Revue de Paris.
Oui, alors, je m'entends pas. Oui, je m'entends. Est-ce que je suis là? Je suis complètement là. Alors, du coup, vous êtes sur Radio Klaxon, comme on vient de dire. Toujours la Revue de Paris. Et on a fait un peu le gros point... violence policière,
crime policier.
Maintenant, on va faire plutôt des bonnes nouvelles. Bon, on va essayer.
Ouais, c'est vrai que c'est plutôt ça. Il n'y a pas que. Faut trouver les mauvaises, mais c'est assez facile à découvrir lesquelles sont bonnes et lesquelles sont mauvaises.
Alors, on va commencer par une victoire. Mais moi, je suis pas encore sûre que ce soit vraiment une victoire. Mais en tout cas, c'est un peu proposé comme ça. C'est au Dakota, c'est les militants anti-pipeline qui aurait eu une bonne nouvelle. Et en fait, l'administration fédérale, elle a modifié le tracé de l'oléoduc qui doit faire 3000 km entre le nord et le sud des États-Unis pour transporter du gaz de schiste et du pétrole. Et il paraît que les militants du camp de Sandy Hook célèbre depuis dimanche une grande victoire pour le combat contre la construction de ce pipeline Dakota Access. Sous la pression de l'administration Obama, l'armée américaine, propriétaire du terrain sur lequel devait être menée la dernière partie de l'oléoduc, a annoncé dimanche qu'elle ne délivrerait pas l'autorisation à l'entreprise Energy Transfer Partners pour creuser sous la rivière Missouri au niveau du lac Ouahé. Voilà, du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Du coup, il n'est pas annulé ce pipeline, mais il décale le trajet et ça évite ce territoire-là.
Oui, après, en vrai, plusieurs militants disent que le combat n'est pas terminé parce que l'armée n'a pas, en effet, n'a pas déclaré vouloir stopper définitivement la construction du serpent noir, mais changer son tracé, lui permettre de traverser le Missouri, et ça représenterait d'importants risques environnementaux et sanitaires. Du coup, la lutte continue, même s'il y a une bataille gagnée, quoi. Alors, on avait encore...
causer de quoi ?
Deux petites brèves. De quoi on voulait causer ? On peut causer de Techno Plus.
Ouais, on peut causer Techno Plus.
C'est une info sur Paris Lutte Info. Et la semaine dernière, je ne me rappelle plus si c'est vendredi ou samedi, vous voyez, Techno Plus, c'est depuis 1995, c'est une association qui est présente dans les fêtes techno en France et parfois dans les grands rassemblements en Europe. C'est que des bénévoles et qui font de l'information et de la prévention autour de la consommation de drogue, surtout des drogues de synthèse. Voilà, ils étaient venus aussi sur la ZAD pour le festival manif du 8-9 octobre. Et les gendarmes, en tout cas, ils ont fait irruption chez eux pendant une réunion associative en Ile-de-France, dans leurs locaux parisiens, et ils ont fouillé, contrôlé tout le monde, et ils ont arrêté deux volontaires qui sont toujours en garde à vue. Et ils ont perquisitionné le local avec la saisie d'un certain nombre de papiers. Et ils ont saisi le camion de l'association. Et en même temps, le président de l'association a été arrêté en Loire-Atlantique sur son lieu de travail et interrogé sur place pendant plusieurs heures, puis relâché. Pour l'instant, on n'a pas d'informations. Moi, j'ai pas trouvé qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'ils sont sortis de garde à vue? Pourquoi? En tout cas, Techno Plus, ils en parlent et ils demandent à tout le monde de relayer un petit texte là qu'ils ont écrit, que je viens de vous lire en partie, qui parle de ça. Du coup, on attend plus de nouvelles. Si vous en avez, vous n'hésitez pas à nous envoyer un texto. On pourra le lire en direct.
Voilà, et ça rappelle un peu aussi des histoires qui ce qui s'est passé samedi sur le périph de Rennes. Du coup, en même temps que la manif pour Babacar, il y a eu aussi une opération escargot. C'était que je crois qu'il a bien marché parce qu'il y avait des articles sur Presse Océan. En tout cas, ça faisait bien chier sur le périph un samedi avant Noël et des toffeurs qui ont décidé de réagir à la comment on dit quand les flics qui récupèrent du matos.
La perquise.
Une perquise et surtout une le matos qui a été réquisitionné.
Voilà. Okay. Et si on continue un peu vers la région parisienne, il y a un article sur Paris Lutte qui s'appelle « Pourquoi on est contente que le Civic Lab de la Chapelle est cramé ?» Alors le Civic Lab, c'est un truc qui a été posé à la Chapelle, si j'ai bien compris, c'est un espèce d'atelier architecture qu'ils appellent autogéré, ils n'ont pas peur des mots, et qui participe à la gentrification et la boboisation de ce quartier de la Chapelle. Et du coup, il y a eu des gens qui ont décidé de cramer ce truc-là. Et il a bien cramé. Il y a une photo sur Paris Lutte. Il n'en reste pas grand-chose. Et du coup, il y a un petit texte qui accompagne l'action. Donc, dans la nuit de dimanche à lundi, un beau feu de joie a touché le Civic Lab du métro La Chapelle. Au lieu de la participation citoyenne pour un urbanisme épuré de toute forme ostensible de misère, ou comment les nettoyeurs se font nettoyer. Et ce Civic Lab, c'est une installation qui a été subventionnée au lendemain de l'expulsion des migrants-migrantes qui vivaient sous la ligne 2 du métro La Chapelle. Jeu de dupes et saloperie consciente, le comble est de venir nous vendre du civisme lorsque l'on participe de la violence faite aux plus précaires. Le Civic Lab, c'est l'ancrage dans le quartier de l'atelier d'architecture autogéré, dont la mission est de préfigurer une promenade citoyenne aux abords du métro entre les stations Barbès et Stalingrad, en concertation avec les habitants du coin. Du coup, c'est fumisterie du participatif, voilà. Et
il y a une partie marrante quand même.
Ouais. Tu veux la lire ?
Vas-y.
Celle-là ?
Oui.
Agente de la gentrification ou l'urbanisme friendly, sous couvert de convictions gauchistes boboisantes, mais de la bonne gauche, celle qui fait pas chier, à se demander si avec leur construction de briques et de brocs faussement récup, ils et elles ne voudraient pas nous faire croire à une ZAD. Ceci démontre la capacité de ces architectes à intégrer des esthétiques de lutte pour vendre leurs produits, en récupérant à leur compte les volontés d'expérimentation des brouillardes en acte à NDDL ou encore à Bure. Le bise bien jute de l'urbaniste bio, urbanisme bio, merdifie ces jeunes architectes pétris de bons sentiments. Leur citoyennisme militant revêt diplomatiquement les nouvelles stratégies douces de la mise sous contrôle d'espaces de la ville, jusqu'alors incontrôlables. Aux chiottes, les collectifs orduriers qui viennent nous vendre l'illusion de l'autogestion en partenariat avec la municipalité. Et c'est aussi des lieux où il y a souvent des marchés un peu... à l'arrache, là, tu vois, où des gens ils se posent et ils vendent des trucs, machin, les bifins, souvent ils sont appelés. Et du coup, c'est aussi des endroits pour dégager ce commerce-là.
Oui, justement, avec la création de Civic Lab, cette même, je sais plus comment dire, cette même, je sais pas si c'est une asso, mais en tout cas, Civic Lab, ils auraient fait de la pression auprès de la police pour carcériser le quartier, pour enlever tous les vendeurs à la sauvette, et ils avaient été à l'origine d'une campagne d'affichage. Pour justement stigmatiser ce quartier en disant que c'était un quartier dangereux et qu'il fallait que la police intervienne. Voilà, du coup, c'est un peu... Et l'article qu'il y a sur Paris Lutte Info, justement, ils s'interrogent aussi, ils disent, nous, on est tout le temps en train de réagir à des trucs qui se passent au GUD, au Front National, mais en vrai, même le Parti Socialiste ou les gens qui sont autour du Parti Socialiste, ils font des choses du même niveau, quoi, voire pire.
parce qu'ils se cachent derrière des jolis mots et du coup ils se questionnent un peu de est-ce qu'il faudrait pas faire des choses.
Et l'article il termine avec alors encore oui, on a fêté le cramage de cette installation abjecte qui voudrait nous faire croire que la démocratie ça fonctionne. Le brûler c'était politiser chaudement la question de la gentrification dans un débat où toutes les parties débattantes se disent apolitiques, neutres, pour et avec les habitants à la légitimité autoproclamée.
Voilà, encore une histoire de gentrification.
Mmh.
On fait. Est-ce qu'on vient de faire une pause? Est-ce qu'on fait une petite pause ou on continue avec les brèves? Peut-être on finit.
Ouais, on peut finir avec les brèves.
Alors, on avait une autre histoire. Cette fois, c'est pas très. C'est pas très joyeux, moins que les deux dernières infos. C'est une histoire de fichage encore. Oui, ça peut être une autre rubrique de notre revue de presse. À chaque fois, il y a une histoire de fichage. Et bah, le 29 octobre, on avait déjà parlé plusieurs fois du TES, le fichier des gens honnêtes, qui est passé pendant le pont de la Toussaint. Et le 29 octobre dernier, un décret moins médiatisé, mais non moins liberticide, est entré en vigueur. Il met en place une énième fichier de police, l'IGAV, informatisation de la gestion de la garde à vue, ayant pour but d'entériner la collecte des données sensibles, malgré les prescriptions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Voilà, l'IGAV a pour but de recueillir toutes les informations possibles et imaginables concernant votre passage en garde à vue, notamment vos préférences alimentaires et donc potentiellement vos pratiques religieuses, votre état de santé, informations données par vous-même, votre médecin de garde à vue ou votre entourage, l'identité de votre avocate, de votre médecin, mais aussi des personnes que vous avez demandé à faire prévenir, la liste de vos effets personnels, les parades d'identification que vous tenteriez éventuellement, les droits que vous acceptez ou refusez, et bien plus encore. Il y a encore une liste de trucs, ça fait un peu peur, je ne vais pas la lire peut-être. Voilà, c'était une super information. Alors, je n'ai pas compris, même si la garde à vue reste sans suite, les données seront enregistrées et centralisées sur les plateformes des fichiers de police et des fichiers de la gendarmerie est consultable par les états-majors de police et de gendarmerie, incluant la préfecture et les brigades de renseignement et d'investigation judiciaire, du coup le procureur, voilà, et par d'autres gens, quoi. Et ça, c'est pour la durée d'un an. Passé ce délai, le fichier restera consultable pendant 9 ans par les états-majors. Voilà, c'est super.
Okay.
On passe à autre chose, s'il te plaît.
Y a un chouette journal fanzine qui est sorti, ça s'appelle Canon Rompu, journal contre la guerre, et c'est le numéro 1, du coup c'est le numéro collector, novembre 2016.
Et nous on l'a.
Et nous on l'a sous les yeux, trop la classe. On va pas vous le lire, peut-être que ce sera un truc spécial. Et s'il y a des gens qui ont envie de le lire, il y a Open Bus mercredi soir, je crois bien.
Oui, à partir de 18h.
Ouais. Et du coup, il y a des textes. Oh, il y avait un sommaire, mais. Ah oui, il est derrière le sommaire. Ça parle de. Pour la constitution d'un mouvement contre la guerre. Un autre article, ça s'appelle La bataille de Mossoul, mise en scène de la guerre mondiale. Ensuite, ça parle des opérations militaires françaises en 2016. Contre l'Union sacrée, septembre 1915, wow, la conférence de Zimmerwald, lâchant qu'on va apprendre des trucs. Et ensuite, il y a un article qui raconte comment Frontex est devenu, je sais plus, l'agence pour je sais pas quoi, avec deux fois plus de thunes, deux fois plus d'armes, deux fois plus de répression possible. Et puis ça change de nom, donc Frontex commençait à avoir vraiment une sale pub et machin, ben, on change de nom, on l'appelle l'agence européenne de protection de je sais pas quoi. Agence européenne de garde frontière et de garde côte. Voilà, un truc très joli, très mignon, un peu ambiance marine là. C'est plus joli que Frontex. Donc il y a un texte pour dire comment ça a évolué, qu'est-ce que c'est ce truc là. Et vous pouvez le trouver sur internet ou vous pouvez aussi écrire à l'adresse qui s'appelle acanonrompu@riseup.net.
Oui, et ben ça a l'air super. Oula.
Ah, un message de dernière minute, vous avez encore 3 minutes. Plus fort.
Non, c'est pas ça, attends.
Ah non, c'est pas ça. Alors, on a eu un tweet des Ziradiers de Bure.
On aurait besoin de 4000 sous pour un campement à Bure et faire annuler un projet 10 fois plus coûteux que le pipeline blablabla. Info, oléoduc c'est 3,8 milliards de dollars, Bure c'est 35,9 milliards of euros.
Ouais, c'est carrément plus cher.
On s'en fout, c'est dégueu. Et du coup voilà, 4000 sioux, s'il y a des gens qui se sentent sioux de l'intérieur ou de l'extérieur, welcome to Bure, ils sont en train de réoccuper ou pousser plus fort l'occupation du bois de Mandre, si j'ai bien compris, parce que l'Andra pourrait venir à nouveau dans ce bois qu'ils ont libéré cet été.
Oui, et ben on arrive à la fin, peut-être une petite dernière, mais... vraiment une petite
Allez.
Brève, c'est l'histoire de Bolloré qui attaquait en justice Bastamag et d'autres sites internet. C'était une histoire de un article qui était paru sur l'activité du groupe Bolloré en Afrique, qui était intitulé Bolloré Crédit Agricole Louis Dreyfus, ces groupes français champions de l'accaparement de terres, et qui traitait l'implication de certaines grandes entreprises françaises dans l'accaparement de terres en Asie et en Afrique. C'était un article publié paru le 10 octobre 2012 sur bastamag.net. Et là, c'est Bolloré qui fait appel et l'audience, c'était le 1er décembre. Ça avait l'air assez tendu. Ça parle de liberté de presse. On n'a pas. Il y a un article sur Paris Info ou sur réseau.net. Il est assez long. Je ne vais pas vous le lire. On était à la fin de notre émission.
Ah, il fait beau.
La météo. Qu'est-ce qu'elle dit, la météo? Ah, il fait beau. Bon, ça, on le voit. Et cette semaine, ça va être bien plus chaud que la semaine dernière.
Oui.
Plutôt entre 9 et 13 degrés. Du coup, on va arrêter de mourir de froid. Brouillard. Et du coup,
c'est quoi que je lis? Pas de...
Pas de pluie.
Pas de pluie. Alors
ça y est, c'est fini la zone humide.
Ok.
Et du coup,
on
brouillard.
On reprend son souffle.
Et quand il n'y a pas brouillard, de... soleil.
Ok.
Alors, c'était la revue de Paris de... Ouais. Du 6 décembre. Est-ce qu'on peut écouter Tollard?
Alors, Tollard, c'est où?
C'est ville portuaire.
Ok.
C'est oui. Et on s'arrête ici. Et vous pouvez nous réécouter quand? Peut-être il faut dire.
Ah, oh, merde. Attends, The News.
Sous The News, il y a qui? Je crois c'est...
Alors, revue de Paris, c'est jeudi. J'espère que d'ici là, peut-être on aura tout changé d'ici là et qu'on ne parlera plus de keuf. Mais bon, quand même, ce sera la rediffusion. Alors, on se rappellera de l'époque où il y avait encore des keufs qui tuaient des gens. Donc, à 10h jeudi.
Et samedi.
Et samedi, et ben alors là, d'ici là, on aura fait du chemin, c'est sûr, à 7h30.
Ouais. Et ben voilà, si vous réveillez à 7h30, vous pouvez nous réécouter. Et sinon, on va essayer la semaine prochaine. Je ne sais pas encore si ça va être le mardi. La semaine dernière, c'était le mercredi soir. Voilà, comme ça, il y a moyen de passer. En même temps, nous voir, lire des infos avec nous, raconter des trucs que vous avez lus sur la presse.
Et on rappelle que demain, 18h, open bus, open mic, wouhou! Au bus, trop bien.
Oui, bah, venez apprendre la table de mixage, raconter des choses dans le micro, faire des lectures, raconter des blagues.
Et venez prendre notre place, ce serait bien.
On aime bien les blagues. Et bah, voilà. C'est la fin.
Ouais.
Et Radio Tucson, toujours 107.7, et on écoute Tollard, ville portuaire. Ciao.
Ciao.